Passion lire, la chronique littéraire de Gilles Labouroir. Bonjour, voici quelques minutes de littérature que je partage avec vous. Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux, disait Jules Renard. Aujourd'hui, Ramuncho de Pierre Loti. Publié pour la première fois en 1897, Ramuncho est, avec Pêcheur d'Islande, un des ouvrages les plus connus de Pierre Loti et un de ses principaux succès d'édition. Roman d'amour et d'aventure situé dans le milieu des contrebandiers basques, il a pour titre le nom de son personnage principal, le jeune et beau héros, Ramuncho. Ramuncho part pour une de ses expéditions clandestines de l'autre côté de la frontière espagnole qui sont le métier secret de tant d'hommes au Pays Basque. Dans la salle basse, sa mère Franquita songe. Elle s'est déjà fait une solide réputation de joueur de pelote et le voilà maintenant qui tâte de la contrebande. Il suit les traditions de sa race. Alors, pourquoi s'inquiéter de l'avenir? De plus, il s'entend bien avec Gracieuse, fille de Dolores d'Etchari, qui fut l'amie d'enfance de Franquita jusqu'à la fugue de celle-ci avec l'étranger, le père de Ramuncho. Le mariage des enfants serait une belle revanche sur cette Dolores orgueilleuse et bigote. Oui, Gracieuse aime Ramuncho et lui promet de l'épouser quand il reviendra du service militaire. Seulement, la séparation dure 3 ans, pendant lesquels Dolores se déchaîne. Plutôt que de la donner au fils de Franquita, elle préfère l'enfermer au couvent. Louis-Marie-Julien Viaud, dit Pierre Loti, est né le 14 janvier 1850 à Rochefort, en Charente-Maritime. Il est le 3e enfant de Théodore Viaud, homme de lettres, secrétaire en chef et receveur municipal de la mairie de Rochefort. Sa famille paternelle est catholique, originaire de Lavaux-sur-Loire, tandis que sa famille maternelle protestante est ancrée dans l'île d'Oléron. En 1862, il entre au collège de Rochefort, où il fait toutes ses études secondaires. À 17 ans, en 1867, le jeune Julien Viaud entre à l'école navale et s'engage dans la marine. Débute alors une longue série de voyages qui l'emmèneront des côtes bretonnes à la Méditerranée, il ira notamment en Turquie, puis dans l'océan Atlantique jusqu'au Sénégal. En 1871, il découvre l'île de Pâques et Tahiti. C'est là-bas qu'il sera baptisé Loti, qui désigne une variété de laurier rose. À la fin de l'année 1871, il embarque à Valparaiso, sur le navire amiral, la frégate mixte Flore, qui fait route vers Tahiti. Pierre Loti, dont une grande partie de l'œuvre est d'inspiration autobiographique, s'est nourri de ses voyages pour écrire ses romans, par exemple à Tahiti, pour le mariage de Loti, en 1882, au Sénégal, pour le roman d'un spahi, en 1881, ou au Japon, pour Madame Chrysanthème, en 1887. Il a gardé toute sa vie une attirance très forte pour la Turquie, où le fascinait la place de la sensualité. Il illustre notamment dans Asiade, en 1879, et sa suite, Fantôme d'Orient, en 1892. En 1877, lors d'une escale en Turquie, il rencontre Hatice, belle et taciturne odalisque aux yeux verts, avec qui il vivra une grande histoire d'amour. Hatice était une jeune circassienne qui appartenait au harem d'un dignitaire turc. Plus tard, lorsque Pierre Loti revient à Constantinople, il se lança à la recherche de sa bien-aimée et découvrit qu'elle serait morte à la suite de son chagrin et de l'ostracisme occasionné par son adultère. En 1892, il écrit « Fantôme d'Orient », extrait du journal de ce retour qu'il lui dédiera. En 1881, il est promu lieutenant de vaisseau et publie son premier roman signé Pierre Loti, le roman d'un spahi. En 1886, Pierlotti publie son deuxième grand succès, Pêcheur d'Islande. Deux fois, entre 1892 et 1898, avec une coupure de 3 ans de service à terre à la préfecture maritime de Rochefort, le lieutenant de vaisseau Vieux commande la canonnière Javelot, stationnaire de la Bidassoa à Hendaye, où il achète une propriété. Il s'attache profondément au Pays basque, qui lui inspire son roman Ramuncho. Il a 64 ans en 1914, quand commence le premier conflit mondial avec l'Allemagne. Il est envoyé en mission de conseiller auprès du quartier général de l'armée italienne, en lutte contre l'Empire austro-hongrois, allié des Allemands. Le 31 mai 1918, il est démobilisé pour raison de santé. Pierlotti mourra le dimanche 10 juin 1923, emporté par une crise d'urémie et un œdème pulmonaire, dans sa maison de Bakarrechea, au Pays basque. Des obsèques nationales auront lieu à Rochefort. Il est enterré sur l'île d'Oléron, dans le jardin de la maison de sa famille. Les tristes courlis, annonciateurs de l'automne, venaient d'apparaître en masse dans une bourrasque grise, fuyant la haute mer sous la menace des tourmentes prochaines. À l'embouchure des rivières méridionales de la Dour, de la Nivelle, de la Bidassoa, qui longe l'Espagne, ils erraient au-dessus des eaux déjà froidies, volant bas, rasant de leurs ailes le miroir des surfaces. Et leurs cris, à la tombée de la nuit d'octobre, semblaient sonner la demi-mort annuelle des plantes épuisées. Sur les campagnes pyrénéennes, toutes de broussailles et de grands bois, les mélancolies des soirs pluvieux d'arrière-saison descendaient lentement, enveloppantes comme des suaires, tandis que Ramuncho cheminait par le sentier de mousse, sans bruit, chaussé de semelles de cordes, souple et silencieux dans sa marche de montagnard. Ramuncho arrivait à pied de très loin, remontait des régions qui avoisinent la mer de Biscaye, vers sa maison isolée qui était là-haut, dans beaucoup d'ombre, près de la frontière espagnole. Autour du jeune passant solitaire, qui montait si vite sans peine et dont la marche en espadrille ne s'entendait pas, des lointains, toujours plus profonds, se creusaient de tous côtés, très estompés de crépuscules et de brumes. L'automne s'indiquait partout. Les maïs, herbages, des lieux bas, si magnifiquement verts au printemps, étalaient des nuances de paille morte au fond des vallées, et sur tous les sommets, des hêtres et des chênes s'effeuillaient. L'air était presque froid. Une humidité odorante sortait de la terre moussue, et de temps à autre, il tombait d'en haut quelques ondées légères. On la sentait proche et angoissante, cette saison des nuages et des longues pluies, qui revient chaque fois avec son même air d'amener l'épuisement définitif des sèves et l'irrémédiable mort, mais qui passe comme toutes les choses et qu'on oublie. Au suivant renouveau. Partout, dans la mouillure des feuilles jonchant la terre, dans la mouillure des herbes longues et couchées, il y avait des tristesses de faim, de muettes résignations aux décompositions fécondes. Mais l'automne, lorsqu'il vient finir les plantes, n'apporte qu'une sorte d'avertissement lointain à l'homme, un peu plus durable, qui résiste, lui, à plusieurs hivers, et se laisse plusieurs fois leurrer au charme des printemps. L'homme, par les soirs pluvieux d'octobre et de novembre, éprouve surtout l'instinctif désir de s'abriter au gîte, d'aller se réchauffer devant l'âtre, sous le toit que tant de millénaires amoncelés lui ont progressivement appris à construire. Et Ramuncho sentait s'éveiller au fond de soi-même les vieilles aspirations ancestrales vers le foyer basque des campagnes, le foyer isolé, sans contact avec les foyers voisins. Il se hâtait davantage vers le primitif logis où l'attendait sa mère. Thank you. C'était la chronique littéraire de Gilles Labouroir. À bientôt.